Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 mai 1920, le président de la République tombe du train. Un homme créé pour séduire, gravi d'une marche légère, le destin souriant qui, de succès en succès, le conduit au sommet de ses rêves. Et à peine l'a-t-il atteint qu'il s'effondre, écrit Adrien Dansette à propos de Paul Deschanel dans son Histoire des présidents de la République. Membre de l'Académie française, président de la Chambre des députés durant 12 ans, Paul Deschanel, qui n'a jamais accepté de fonction ministérielle malgré les très nombreuses sollicitations, est élu président de la République le 17 janvier 1920. Il triomphe de Georges Clemenceau, le père la victoire. Il souhaite rendre la magistrature suprême plus active, mais il ne reste au pouvoir que 7 mois. En effet, il démissionne à la suite de graves ennuis de santé et décède le 28 avril 1922, après avoir été élu sénateur de l'Eure-et-Loire un an plus tôt. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1920, Paul Deschanel voyage à bord du train présidentiel. Il se rend à Montbrison pour inaugurer le monument à la mémoire du médecin, sénateur et pionnier de l'aviation Émile Raymond, tué au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Le lundi de Pentecôte, 24 mai, Louis Le Sueur, sous-préfet de Montargis, est réveillé à 5 heures par un bleu du service télégraphique PLM numéro 2164, ainsi libellé. Un homme se disant Monsieur Deschanel est tombé du train présidentiel au kilomètre 110. Autorités locales et docteurs sont prévenus. Louis Le Sueur gagne les lieux de l'incident en voiture. Il y rencontre André Radeau, le garde-barrière, qui faisait sa tournée peu après le passage du convoi présidentiel. Il s'est trouvé tout à coup en face d'une ombre qui marchait péniblement entre les voies. Elle lui dit alors « Je suis le président de la République et je suis tombé du train ». André Radeau se rend vite compte que l'homme a le visage ensanglanté. Il ne croit pas à l'identité annoncée et pense aussitôt avoir affaire à un ivrogne. Il l'a donc un peu rabroué avant de le mener à la maisonnette du passage à niveau le plus proche. Là, le blessé est accueilli par Gustave Dariot, poseur, et son épouse, qui est garde-barrière. Il est environ minuit et demi. Les blessures à la face, au coude et au genou sont lavées et soignées. Puis les époux Dariot couchent dans leur lit le blessé tout grelottant. Fortuné Carré, gendarme de la brigade de Corbeil, prévenu par Gustave Dariot, se rend avec son collègue Victor Mollard auprès du blessé pour recueillir ses premières déclarations. Les gendarmes reconnaissent le président de la République et avisent téléphoniquement le capitaine de la gendarmerie de Montargis. Louis Le Sueur, arrivé au chevet de Paul Deschanel, le conduit à la sous-préfecture, distance d'une douzaine de kilomètres. Là, le président prend un petit déjeuner léger et reçoit une piqûre antitétanique. À 11 heures du matin, un bulletin de santé est publié. État aussi satisfaisant que possible, érosion superficielle de la face et de la jambe gauche, accompagné de son épouse et du président du conseil, Alexandre Millerand, qui l'a rejoint à Montargis en fin de matinée, Paul Deschanel rentre à l'Élysée vers 19h. Les caricaturistes et les journalistes sont sans pitié pour celui dont l'un des biographes écrit « Physiquement, il possède au maximum la prestance, la tenue, si nécessaire à cette magistrature, il est dommage que les facultés mentales de Paul Deschanel n'aient pas été à la hauteur d'un aussi beau physique. » Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparé comme chaque semaine par Emmanuel. Mais avant cela, une pause musicale. C'est Julien Clerc qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons l'un de ses tout premiers succès. C'était en 1968 sur des paroles d'Étienne Rodagil, La cavalerie.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis, moi j'entends la framalabalabala cavalerie, moi je pense à la framalabalabala. Un jour je prendrai la route, mais aille coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi je pense à la
écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres. Nous commençons avec une juive dans la tourmente de la collaboration, Lisette de Brinon, ma mère. C'est signé Bernard Ullmann et c'est publié aux éditions L'Archipel. Voici le destin paradoxal et édifiant de Lisette de Brinon, mais aussi de son fils Bernard. Elle était issue de la grande bourgeoisie juive parisienne et épousa en seconde noce l'un des futurs champions de la collaboration, puis fut déclarée Arienne d'honneur. Un récit véridique raconté par son fils, engagé dans la résistance, qui éclaire les troubles années de la décennie 1930 et celle de l'occupation. Rien ne prédestinait Lisette Franck, issue d'une famille juive patriote, à devenir en 1934 l'épouse de Fernand de Brinon, zélé partisan du rapprochement franco-allemand et futur représentant de Vichy auprès des autorités d'occupation. Sœur du jeune prodige Henri Franck, protégé de Maurice Barrès et d'Anna Nonoailles, Lisette évoluait dans un milieu de haute culture, typique de la grande bourgeoisie juive parisienne. D'un premier mariage, elle avait eu deux fils, convertis au catholicisme, déclarée arienne d'honneur, elle n'en sera pas moins indésirable à Vichy. Elle sera mise hors de cause par la justice d'épuration, mais son mari, un des chefs de file de la collaboration, sera fusillé en 1947 au fort de Montrouge, près de Paris. Elle lui survivra presque un demi-siècle. Son fils Bernard, qui rejoignit les Alliés à Londres, évoque sans complaisance le singulier itinéraire de cette femme de caractère, ainsi que ses amitiés d'après-guerre avec Jacques-Benoît Méchain et Roger Perfitte. Une juive dans la tourmente de la collaboration, Lisette de Brinon, Ma mère, c'est signé Bernard Ullmann et c'est publié aux éditions L'Archipel. Le pacte de Venise de Fabiano Massimi aux éditions Albin Michel. Place Saint-Marc, juin 1934. Benito Mussolini et Adolf Hitler se rencontrent pour la première fois en public. Dans la foule des chemises noires, l'ancien commissaire Siegfried Sauer et son compère Mutti. En lien avec la résistance antifasciste, ils sont venus pour mettre à exécution une mission à haut risque. Mais une mystérieuse affaire les détourne de leur projet, une affaire qui concerne l'intimité de Benito Mussolini et la vie d'une femme. Voici une histoire de bruit et de fureur, de passion charnelle et de scandale, celle d'Ida Dalzer, première épouse du Duce, mère de leur fils caché. Le pacte de Venise de Fabiano Massimi s'est publié aux éditions Albin Michel. Et pour terminer cette chronique, Les amants du Vercors de Jessica Nelson, toujours aux éditions Albin Michel. Marc, Marie et Louis ont partagé leur enfance dans les montagnes du Vercors. Le petit berger passionné par les étoiles, le fou de spéléologie et la future guérisseuse forment un trio lumineux. On se jure fidélité, on éprouve les premières émotions, puis chacun se sépare. Jusqu'à ce printemps 1943, le Vercors est alors une terre de refuge pour les Juifs, les réfractaires du STO et les rebelles de tous horizons. Marc a pour mission de les accueillir, Marie les soigne, Louis devient chef de maquis. Unis dans une lutte inégale face à l'ennemi, ils devront aussi affronter leurs secrets et leurs sentiments ainsi que leur trahison. Les amants du Vercors de Jessica Nelson s'est publié aux éditions Albin Michel. Nous nous séparons en chanson avec toujours Julien Clerc après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. Nous écoutons « Ce n'est rien », titre de l'album Niagara en 1971 avec toujours des paroles d'Étienne Rodagil.
Ce n'est rien, tu
le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Oh,